dans le livre de Job, un seul verset, puis il y en a d'autres qui suivront ensuite, au chapitre 33 et au verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Voilà, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Voilà, ce texte nous apprend que Dieu parle. Remarquez, ce n'est pas étonnant, parce que celui qui nous a fait une bouche n'est pas muet. Il parle. Il s'exprime. Oh, Dieu n'est pas bavard, mais il parle à bon escient, de la bonne manière, et il nous dit les choses que nous avons besoin d'entendre. Alors peut-être certains diront, mais moi j'ai jamais entendu Dieu me parler. Hein. Jeanne d'Arc prétendait qu'elle entendait des voix, mais ça m'est jamais arrivé un coup pareil. Eh bien si, Dieu parle. Alors on va voir cet après-midi comment Dieu nous parle-t-il. Comment Dieu nous parle-t-il? D'abord, il nous parle par la création. Voilà, ce qui nous entoure, la nature, eh bien c'est déjà une manière, un moyen que Dieu utilise pour nous parler. Voulez-vous lire à ce sujet avec moi dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1er, voilà, l'Épître aux Romains, le chapitre 1er, et le verset 19, où justement il est question de cela, et il est écrit: ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste, évident, pour eux, pour les hommes. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Amen. Et c'est vrai qu'au travers de la création, Dieu nous parle. La création, la nature, nous fait connaître, à propos de Dieu, la réalité de son existence. La réalité de son existence. Hein? Il y a un verset dans la Bible qui dit que l'insensé dit « il n'y a pas de Dieu ». Mais c'est vrai que il faut être insensé pour penser que tout a surgi de rien sans que quelqu'un n'y soit pour quelque chose. Je crois que c'est Voltaire qui disait « l'univers m'embarrasse ». Vous voyez, pourtant il s'est moqué, Voltaire, de la Bible, des choses de Dieu, mais il disait « l'univers m'embarrasse ». Parce que je ne peux pas concevoir qu'il y ait une si grande horloge, parler de l'univers, des astres, et qu'il n'y ait pas quelque part un horloger. Ma foi, c'est pas trop bête comme raisonnement, vous voyez. C'est vrai que la nature nous parle de la réalité de l'existence divine, de ses perfections aussi, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, que de merveilles dans la création. La création nous parle de sa puissance, de son pouvoir. Du néant a surgi l'univers. La Bible commence par cette phrase célèbre. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ce n'est pas possible, mes amis, d'attribuer tout cela au hasard. Le simple bon sens, et j'espère que vous avez du bon sens, ce n'est pas interdit d'en avoir, nous fait dire que forcément, puisqu'il y a une création, c'est que quelque part, il y a un créateur. Il y a un créateur. Dieu existe. Dieu est vivant. Et la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire justement qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, qu'il récompense ceux qui le cherchent. Dieu nous parle par la création. Voyez, on ne peut être que saisi d'émotion devant certains spectacles, devant certains paysages, tant ils sont magnifiques, devant le spectacle, par exemple, Hein, ça m'arrivait quand nous étions sur la côte basque, j'aimais bien aller les jours de tempête, pas sur la plage, hein, c'est trop dangereux, mais un petit peu en arrière, vous voyez. Et ces vagues, tout ce déferlement de puissance, quand on contemple dans cette belle région de la Haute-Savoie, ces montagnes, tout ça, ça nous parle de Dieu, mes amis. Ça nous parle, et c'est Dieu qui nous parle au travers de cela, qui nous parle de sa grandeur, de sa gloire, de sa puissance. Quand on lève les yeux en plein été et qu'on regarde une nuit étoilée, on se sent saisi d'émotion, on se sent si petit dans cet espace infini, dans cet univers immense. Et tout cela aussi nous parle de la présence de Dieu, de la réalité de son existence. Vous voyez ? Et c'est vrai que Dieu existe, c'est vrai que Dieu est vivant. Mais ce qui est formidable, c'est que non seulement il est le Créateur, mais il s'intéresse à nous. Hein? Nous avions dans notre famille quelqu'un qui, certes, croyait en Dieu, il croyait que Dieu était le Créateur, mais que voilà, maintenant, débrouille-toi. Bien non, il est plus que ça. Il est plus que le Dieu le Créateur, nous allons le voir. Il est aussi le Dieu d'amour, qui s'intéresse à chacun d'entre nous. Alors, premier point, il nous parle par la création. Il nous parle aussi par autre chose, par notre conscience. Nous avons tous une conscience. Puisqu'on est dans l'Épître aux Romains, on y reste, et on lit au chapitre 2, au verset 14, où il est écrit ceci, « Quand les païens qui n'ont pas la loi, la loi divine, la loi écrite, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. » Qu'est-ce que c'est que la conscience ? La conscience, c'est cette capacité que l'être humain possède en lui-même, c'est inné, il est venu au monde comme ça, cette capacité qui lui permet de porter des jugements sur la valeur morale de ses propres actes. La conscience, c'est un arbitre et un juge intérieur qui nous dit, selon ce que nous avons fait, c'est bien, ou alors c'est mal. Qui peut dire ici qui n'a jamais entendu sa conscience l'interpeller, le reprendre, même avant, hein, vous qui êtes chrétien pour la plupart, même avant notre conversion, voyez, même avant que nous ne connaissions Jésus comme notre sauveur, la conscience était là. Un homme me disait une fois, vous savez, j'ai fait des choses tellement horribles dans ma vie que certains moments, je me suis dit, tu as tué ta conscience. Tu as été si loin, si profond dans le mal, que maintenant, elle ne t'adressera plus jamais aucun reproche. Mais il disait, c'est pas vrai. C'est pas vrai. La conscience était toujours là. Et c'est vrai qu'elle est là. Hein? La loi divine, la loi morale, est inscrite dans notre cœur. Nous, les êtres humains, nous ne sommes pas dirigés simplement par notre instinct. Un animal, vous voyez, il n'a pas d'état d'âme. Hein. Quand un lion croque une gazelle, il n'en fait pas toute une histoire. Vous voyez, ça ne le trouble pas, ça ne le perturbe pas moralement, parce qu'il agit instinctivement. Mais nous, quand nous faisons ce qui est mal, ce qui est mauvais, ce qui est méchant, ce qui est vulgaire, ce qui est désagréable, eh bien, il y a ce malaise intérieur qui se produit. Vous voyez, j'ai parfois rencontré des gens qui avait fait des choses terribles. Hein, lorsque j'étais aumônier de prison, les assassins, et je leur parlais de l'amour de Dieu, parce que même eux, le Seigneur veut les sauver. Et je me souviens de cet homme qui me disait, mais comment pouvez-vous me parler de ce Dieu qui, paraît-il, est prêt à me pardonner, alors que je ne parviens pas à me pardonner moi-même. Ça prouvait qu'il avait une conscience. Eh bien, Dieu nous parle au travers de la conscience, et il nous révèle que nous sommes des pécheurs et que nous avons transgressé cette loi morale qui est en chacun d'entre nous, n'est-ce pas ? Dieu nous parle par la conscience, il nous parle aussi par autre chose. Il nous parle par ce livre qui est la Bible, les saintes écritures qui constituent sa parole rédigée, sa parole sous forme d'écrit. Regardez, dans la deuxième épître de Paul à Timothée au chapitre 3 et au verset 16, il est dit quelque chose à ce sujet. Deuxième épître de Paul, chapitre 3, verset 16. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voilà, toute l'écriture, les saintes écritures. Mes amis, ce livre que je tiens entre mes mains, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu, la parole écrite de Dieu. Et elle est infaillible. Elle est infaillible parce qu'elle est inspirée de Dieu. Jésus dira concernant les saintes écritures, ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Elle nous dit, la Bible, la vérité sur Dieu. La vérité sur nous-mêmes. Vous voyez ? Si vous voulez avoir une appréciation exacte de ce que vaut l'être humain, de ce que je vaux, de ce que vous valez, il faut se référer à la Bible. Les systèmes philosophiques du monde sont dans l'erreur. Bien souvent, seule la parole de Dieu, l'Écriture sainte, nous dit la vérité sur nous-mêmes. Elle nous indique, elle nous dit la vérité sur le moyen d'être sauvé. Oui, tu es pécheur, mais Dieu a prévu un moyen pour que, eh bien, tes péchés soient effacés, pardonnés, et que tu aies accès au salut de ton âme. Elle nous dit la vérité sur le jugement à venir. Oui, il y aura un jugement. Non, non, les choses ne vont pas se prolonger indéfiniment comme cela. Mais Dieu interviendra dans l'histoire humaine. Il l'a déjà fait, n'est-ce pas ? Il y a eu le déluge, il y a eu la destruction de Sodome et Gomorre, où le péché s'est allé au grand jour. Et dans l'avenir, eh bien, l'Écriture dit que la terre et les cieux d'à présent sont gardés, réservés pour le feu. Et la parole de Dieu, la Bible, elle nous dit la vérité sur tout cela. Alors comment c'est venu ça ? Comment elle est venue cette Bible ? Est-ce que c'est le produit du hasard ? Certainement pas. D'abord, il y a eu une révélation. Révéler, ça veut dire lever le voile. Lever le voile. Ça veut dire que Dieu a fait connaître sa volonté à ces hommes qui ont rédigé la parole de Dieu. Et puis non seulement il leur a accordé la révélation, mais l'inspiration, ça signifie que Dieu leur a communiqué les mots qui devaient être employés pour transmettre par écrit sa parole, l'expression de sa volonté. Sachez-le, mes amis, ces hommes qui ont rédigé le texte biblique n'ont pas simplement élucubré, n'ont pas simplement dit, eh bien, je vais écrire ce qui me passe par la tête. Non, mais ils ont été providentiellement inspirés, divinement inspirés pour transcrire, pour communiquer la pensée divine avec les mots qu'il fallait employer pour exprimer cette pensée divine. Et puis, Dieu a permis dans sa grâce que cette parole, elle nous parvienne, à nous, qui vivons au XXIe siècle. Vous voyez, un texte dans le livre de Jérémie qui dit que Dieu a veillé sur sa parole. Dieu a veillé sur sa parole. C'est particulier de constater combien la Bible a été et est encore combattue. Bien des régimes politiques ou religieux ont combattu la Bible. Elles ont été brûlées, elles ont été détruites. Mais elle est toujours là. Tenez, je parlais de Voltaire tout à l'heure. J'ai lu quelque part que cet homme disait, 100 ans après ma mort, la Bible, ce sera fini, on n'en parlera plus. Eh bien, je crois savoir qu'aujourd'hui, sa maison est devenue une maison d'édition chrétienne. C'est extraordinaire, ça. C'est la réponse de Dieu. Elle nous est elle nous est parvenue, cette parole divine. Et puis, la Bible vient, voilà, il y a eu la révélation, l'inspiration, la transmission, il y a eu l'illumination. Ça veut dire que Dieu éclaire notre esprit. Vous voyez, quand on lit la Bible avec un cœur bien disposé, il ouvre notre cœur à cette parole pour que nous la comprenions. Je me souviens du témoignage de cette dame qui me disait, avant de connaître Jésus comme mon sauveur, avant d'accepter Christ dans ma vie, je lisais la Bible, j'y comprenais rien. Et puis, depuis que Jésus est devenu mon sauveur, tout à coup ce texte, je le comprends, ça me parle, ça nourrit ma foi, ça m'inspire, ça me façonne, ça me transforme. Voilà, vous voyez ? Et c'est ce que Dieu veut faire pour chacun et chacune d'entre nous. Alors il nous parle, Dieu, il parle par la création, par la conscience, par sa parole écrite, la Bible. Et puis enfin, il nous parle par son Fils, Jésus-Christ. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1er et au verset 14, il est dit quelque chose à ce sujet, quelque chose d'important. Voilà, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1er et verset 1er. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Le Fils de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et il nous parle au travers de Jésus-Christ, son Fils. Jésus, d'ailleurs, est la parole faite chair. C'est écrit dans la Bible. Il est Dieu qui se fait homme pour sauver les hommes. Par son Fils, Dieu nous parle de son amour. Il y a fait référence tout à l'heure. Mais par son Fils, Jésus-Christ, il nous parle de sa justice. Et ces deux traits du caractère divin ont été manifestés lors de la crucifixion du Seigneur Jésus. Pourquoi Jésus est-il mort sur une croix? Ça, c'est une question. Pourquoi Jésus est-il mort sur une croix? Lorsque j'étais enfant et que je lisais la Bible, j'avais la peine à comprendre. Lorsque j'arrivais à ce récit de la crucifixion, je me disais à moi-même, « Seigneur Jésus, tu es tellement puissant. Tu as guéri des malades, tu as ressuscité des morts, tu as chassé des démons, tu as multiplié les pains, les poissons pour nourrir la foule affamée. Mais tu aurais pu utiliser cette puissance pour ne pas permettre que les hommes de ce temps t'ont fait ce qu'ils t'ont fait. Tu aurais pu t'arracher toi-même aux mains de tes bourreaux. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Pourquoi tu as accepté de mourir de cette manière? Pourquoi tu t'es laissé faire ainsi? » Et puis, heureusement, le Seigneur a touché mon cœur. Et j'ai compris qu'il avait fait ça pour moi. Bien sûr qu'il avait le pouvoir de s'épargner les souffrances de la croix. Vous voyez, l'apôtre Pierre a voulu le défendre. Hein, quand on est venu arrêter Jésus, Pierre, il a sorti de derrière son vêtement une épée et puis il a coupé l'oreille d'un de ces hommes qui était venu arrêter Jésus. Moi, je crois que ce n'est pas que l'oreille qu'il voulait couper. Il devait vouloir couper la tête. Hein, mais comme il était maladroit, il a juste eu l'oreille. Voilà. Et Jésus lui a dit, mais arrête, mets ton épée au fourreau. Ne penses-tu pas que si je le voulais, je pourrais invoquer mon Père céleste qui m'enverrait 12 légions d'anges? Mais comment s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Pourquoi il est mort? C'est la parole de Dieu. C'est le message d'amour et de justice. Il a pris sur lui nos péchés. Il fallait que la justice divine soit satisfaite. Il fallait que la sanction s'applique. Il y a une règle dans la Bible. Il y a une loi que Dieu ne violera pas qui dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est le jugement de Dieu, c'est la condamnation méritée, ça n'est que justice. Eh bien, mes amis, Jésus a pris sur lui, le péché de nous tous. Et en sa personne, le péché a été justement châtié, puisque Jésus en a subi lui-même la peine. Il a pris sur lui, Jésus, la condamnation que nous méritions, chacun pour nos péchés. Mais oui, tu es un pécheur, tu as offensé Dieu. Tu mérites la condamnation, tu mérites l'enfer, tu mérites le jugement de Dieu. Mais ce que tu méritais, Jésus l'a subi à ta place, pour que la justice de Dieu soit satisfaite. Hier, je discutais avec un homme, je me dis, quand même, pécheur, d'accord, mais vous y allez un peu fort. Alors, il avait l'air de dire que le péché, c'était pour les voyous, les gangsters. Il me dit, mais moi, je n'ai pas fait grand-chose, rien de bien méchant. Et mes amis, par rapport à la sainteté de Dieu, le moindre de nos péchés nous disqualifie totalement et nous rend indignes d'entrer dans son royaume éternel. L'Écriture dit que dans le ciel, rien d'impur, rien de souillé n'y entrera. Voyez ? Alors Jésus a pris sur lui la condamnation et il l'a subi à notre place. Comme ça, la justice divine a été satisfaite. La loi s'est appliquée, le salaire du péché, c'est la mort. C'est pour ça que Jésus est mort, pour nos péchés. Et maintenant, en retour, le pardon nous est offert. Ça, c'est l'amour de Dieu. Sur la croix, Dieu nous parle de son amour et de sa justice. De sa justice et de son amour. Même le plus mauvais peut être pardonné, sauvé, gracié, hériter le ciel, être béni de Dieu. Dans la Bible, il y a des exemples à ce sujet. Zachée, le voleur, a été sauvé. La femme de mauvaise vie, la prostituée qui est venue pleurer aux pieds de Jésus, a été sauvée. Le brigand sur la croix, qui était un criminel, a été sauvé. Saul de Tarse, qui était un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, a été sauvé. Ces gens-là seront au ciel, mes amis. Comment c'est possible, ça? Ils ne veulent pas pique-pendre, ils iront au ciel, oui, parce que dans son amour, Dieu leur a fait grâce. Dieu les a pardonnés. Dieu les a libérés de la culpabilité. Dieu les a réhabilités. N'est-ce pas? Ils ont cru que Jésus mourant sur la croix, ils ont cru, ces personnages bibliques, que Christ était mort pour eux et ils ont reçu le pardon. Même les plus mauvais peuvent être pardonnés, sauvés. Mais même les meilleurs ont besoin de son pardon. Je ne sais pas dans quelle catégorie vous vous placez. Peut-être qu'au milieu de nous, il y a des gens qui disent, mais moi, je ne suis vraiment pas brillant. Moi, effectivement, il y a des choses qui pèsent sur ma conscience. Comme je parlais de cet homme qui avait commis ce crime affreux, qui me disait, mais je n'arrive pas à me pardonner moi-même. Mais peut-être qu'il y en a d'autres qui se disent, mais finalement, je n'ai pas fait grand-chose. Mais même si tu as une excellente moralité, même si tu as à vue humaine, on n'a pas grand-chose à te reprocher. Tu n'es qu'un pécheur devant Dieu. L'Écriture dit que le plus juste, le meilleur parmi nous, il est pire qu'un buisson d'épines. Mes amis, même le meilleur, il est encore suffisamment mauvais pour aller tout droit en enfer s'il en reste là. Mais dans son amour, Dieu nous tend la main et veut nous faire grâce, veut nous faire miséricorde. Tous pécheurs, mais tous sauvables, alléluia. Tous peuvent être rachetés par l'amour de Dieu. Ainsi, voyez, Dieu parle. Il parle par la création, il parle par la conscience, il parle par les saintes écritures, il parle par son fils Jésus-Christ. Mais le texte que nous avons lu en préambule dit ceci, Dieu parle et on n'y prend point garde. C'est souvent le cas et c'est regrettable. Vous savez, Jésus, souvent, quand il prêchait, il disait à ses auditeurs que celui qui a des oreilles entende. Vous savez qu'il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Alors, quand Dieu parle, la question qui se pose est la suivante. Comment répondre à Dieu qui nous interpelle, qui nous parle? Eh bien, la Bible répond. Comment répondre à Dieu qui nous interpelle et qui nous parle? Il y a un verset qui dit que c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Vous voyez, Dieu ne parle pas pour rien dire. Ce qu'il dit, c'est vrai, c'est sérieux, c'est digne d'intérêt, ça doit être pris en considération. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Il faut qu'il y ait prise en considération de ce message essentiel que Dieu nous adresse. Et la réponse adaptée à la parole de Dieu, c'est la foi. C'est la foi. Que Dieu attend de notre part. L'Écriture dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Le but de cette réunion, cet après-midi, c'est pas de vous faire passer un moment sympathique avec des gens merveilleux, parce qu'ils sont tous merveilleux. Le but de cette réunion, c'est que cette parole divine puisse toucher votre cœur et susciter la foi. Voyez, j'avais un père, moi, qui était incrédule, qui était moqueur même vis-à-vis des choses de Dieu. Mais poussé par le malheur, parce que c'est souvent, hélas, le malheur qui nous amène à nous approcher de Dieu. Il est venu dans une réunion semblable à celle-ci. Et là, ce qu'il a entendu, la part du prédicateur, et puis aussi au cours des discussions qu'il avait avec les gens qui étaient dans cette réunion, tout ça l'a bouleversé, l'a touché au plus haut point. Tant et si bien que quand il est revenu à la maison, il a dit à ma mère, ce que j'ai entendu là-bas, dans cette réunion, c'est la vérité. Comment c'est possible qu'un incrédule notoire, un moqueur, puisse parvenir à la foi? La parole de Dieu avait produit son effet. Et nous avons prié, et nous prierons encore, pour que cette parole produise le même effet dans votre cœur. La foi. Parce que Dieu ne nous en demande pas plus. La foi. Il ne demande pas de faire des exploits. Il ne demande pas d'être des gens exceptionnels. Il sait que nous n'en sommes pas capables. Mais simplement d'avoir la foi. Qu'est-ce que c'est que la foi? La vraie foi. Pour avoir une foi authentique, il ne suffit pas de dire « je crois que Dieu existe ». C'est pas mal, mais ça ne suffit pas. Parce que la Bible dit que même les démons, même le diable, et pour cause, savent que Dieu existe. Ils ne sont pas sauvés pour autant. La foi, c'est tout d'abord la confiance du cœur. Voyez-vous, la confiance du cœur. Je crois que toi, Jésus, tu es mort spécialement pour moi, afin de me sauver, afin de me pardonner, afin que j'échappe à l'enfer. Ah, quand j'ouvre les yeux sur cette réalité, il m'a aimé. Je me mets à l'aimer en retour. Ce Dieu que peut-être autrefois je combattais, ce Dieu vers lequel je tendais le poing en disant tous mes malheurs, tu en es la cause, ce Dieu-là, je comprends qu'il m'a aimé le premier et je me mets à l'aimer en retour. La foi, c'est accepter le moyen que Dieu nous offre en Jésus pour être sauvé. Je n'essaie pas de gagner le ciel. Vous savez, il y a cette expression. On se gagne le ciel. Ça, c'est la religion qui nous dit ça. Fais beaucoup d'efforts. Fais beaucoup de prières. Fais beaucoup de bonnes actions. Voilà, donne aux malheureux, sois aimable, sois gentil, sois courtois, et peut-être, finalement, Dieu te récompensera. Non, mes amis, c'est pas comme ça. Le ciel que Dieu veut nous donner en partage, les bienfaits qu'il veut nous accorder, on ne les reçoit pas comme un salaire pour nos bonnes actions, comme une chose due, on les reçoit comme un cadeau gratuit. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Le don gratuit de Dieu. Dieu, il insiste, vous voyez. Le don gratuit, un don, par définition, c'est gratuit. Mais pour qu'on comprenne bien, Dieu répète deux fois la même chose, dans la même phrase. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Cet après-midi, Dieu qui vous aime, et décidé à vous faire du bien. Pas parce que vous l'avez mérité, mais parce qu'il vous aime, tout simplement. Et vous a donné rendez-vous dans ce lieu pour vous parler de cet amour qu'il a pour vous. La foi, c'est la confiance du cœur. C'est accepter le moyen que Dieu nous offre en Jésus d'être sauvé, d'être béni. La foi, c'est obéir L'Écriture parle de l'obéissance de la foi. Je décide désormais de mettre en pratique ces commandements, de conformer ma vie à ces justes exigences, avec son aide, parce que seul je n'y arriverai pas. La foi, c'est aussi s'engager, et la foi, c'est persévérer. C'est cette foi qui nous conduit à la bénédiction. Et dans les Écritures, souvent on voit un malade s'approcher de Jésus, et le Seigneur lui dit qu'il te soit fait selon ta foi. Et le malade est guéri. Qu'il te soit fait selon ta foi. Peut-être cet après-midi, vous êtes venu avec des tas de problèmes que vous ne maîtrisez plus, que les situations compliquées, complexes, dramatiques, douloureuses, que vous n'arrivez plus à gérer. Ça peut être dans le domaine de la santé, ça peut être dans le domaine familial, ça peut être dans le domaine moral. Vous n'en sortez pas, vous tournez en rond. Vous vous dites, ah, si quelqu'un pouvait me tendre une main secourable, si quelqu'un pouvait m'apporter une solution, comme ce serait formidable. Eh bien, ce quelqu'un existe, mes amis. Ce quelqu'un, c'est Dieu. Ce quelqu'un, c'est Jésus qui vous aime et qui vous dit, il te suffit de me faire confiance. Hein? Je parlais tout à l'heure de mon papa. Nous étions dans une situation dramatique, douloureuse. Des années plus tard, mon père me disait, tu sais, c'était tellement douloureux, c'était tellement difficile que j'aurais souhaiter qu'une bombe atomique explose. C'était sa manière de penser, tant il était malheureux. Vous comprenez ça? Une bombe atomique explose et que tout soit fini, pour moi et pour les autres. Mais ça a été une bombe atomique d'amour divin, amen, qui a explosé sur notre vie et elle a changé le cours de notre destin. Il peut faire la même chose pour vous. Dieu vous parle, il a quelque chose à vous dire. Ce qu'il a à vous dire, c'est qu'il vous aime et qu'il veut vous tirer d'affaire, vous secourir et vous bénir. Nous allons prier quelques instants. Amen. Notre Dieu.